quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. La hausse du prix du carburant, la chasse aux véhicules diesel, ensuite l'augmentation du nombre des radars. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon?
Est-ce que vous vous souvenez de sa vidéo « L'égérie de la colère, ras-le-bol de la taxe carbone qui fait grimper le prix du diesel enragé, Madame Moureau ?» Oui, tout a commencé avec Jacqueline et une jacquerie fiscale. Un an après, quel bilan économique pour les Gilets jaunes? Eh bien d'abord, 17 milliards pour le pouvoir d'achat, ce n'est pas rien. Pas rien non plus, le changement de méthode de l'exécutif. Désormais, le mot-clé, c'est concertation, ne pas fâcher, au moins pas frontalement. Et puis, il y a la promesse de fonctionnaires redéployés en province, l'apparition de l'urgence écologique dans le radar de l'exécutif. Ensuite, sur le fond, les Gilets jaunes ont-ils modifié le cap ? ISF, réforme du code du travail, l'acte 1 n'a pas été détricoté. Et l'acte 2, avec la politique de l'offre, la réforme de l'assurance chômage, la volonté d'aller au bout de celle des retraites, n'est pour l'instant pas si différent. L'inconnu, à présent, ce sont d'autres colères. À la SNCF, à l'hôpital, à l'éducation nationale, des colères qui surgissent et qui débordent encore les syndicats. Bref, l'inconnu, un an après les Gilets jaunes, c'est la possibilité d'une gilet jaunisation des ras-le-bol.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le guest. Ah non, c'est on n'arrête pas l'écho. Le magazine de l'économie de France Inter, avec en régie Coyen Guyenne, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production, et à la technique, Nicolas Cazot. Ça, c'est l'orchestre. À présent, les solistes, ils sont là. Bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour.
Et bonjour Emmanuel Le Chypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Les Gilets jaunes, à vos yeux, un an après, qu'est-ce qu'ils ont changé ou pas, la politique économique, Christian?
Eh ben, Emmanuel Macron n'était pas écolo, il l'est pas. Il faisait pas d'efforts pour les migrants, il en fait toujours pas. Il avait de la phobie fiscale, il fait toujours de la phobie fiscale. Et les, comme vous l'avez dit, Alexandra, la libéralisation du début, les cadeaux aux riches, c'est resté, donc pas grand-chose.
Ah, vous trouvez qu'ils n'ont pas changé grand-chose, Emmanuel Le Chypre, vous non plus?
Sur le fond, en tout cas.
Sur le fond.
Bah, le constat, c'est quand même que jamais un président n'a lâché autant d'argent aussi vite face à finalement aussi peu de manifestants dans les rues. 17 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il a raté, Emmanuel Macron, une opportunité historique qui est la convergence de tous les mécontentements, et y compris de ceux dont on va parler aujourd'hui. C'est bâtir l'État moderne du 21e siècle, bâtir le service public du 21e siècle, parce qu'au fond, la revendication des Gilets jaunes, c'était ça. On paye trop d'impôts par rapport à un service public dont la qualité ne cesse de se dégrader. Emmanuel Macron, il a refusé de saisir cette opportunité après le grand débat. Il a choisi de s'attaquer à l'immigration, il a choisi de s'attaquer aux retraites, qui sont des réformes que les Français ne réclamaient pas. Et je pense que c'est vraiment une erreur historique.
J'ai l'impression d'entendre les revendications d'Emmanuel Le Chypre plus que celles des Gilets jaunes, mais pourquoi pas?
Les revendications. Les Gilets jaunes, ils ne demandaient pas plus de services publics et ils ne demandaient pas de payer moins d'impôts.
Si, si, Emmanuel, si, si.
Bah, oui.
Bon, ils demandaient, non, mais ils demandaient plus de protection que de libéralisation. Allez, voilà pour le petit bilan Gilets jaunes, un an après, on n'arrête pas l'écho. Et ce samedi, vous l'avez dit, nous allons ausculter le système de santé français avec votre débat, messieurs, sur l'hôpital public. Et puis un zoom sur les médicaments. Vous savez que les pénuries sont de plus en plus fréquentes. Qui est responsable? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. L'accès au traitement, mais aussi les médicaments du futur, on en parlera avec notre invité. C'est la PDG France du laboratoire Janssen. Janssen, c'est la filiale pharmacie du géant américain Johnson & Johnson. Emmanuel Quiles sera donc dans ce studio à 9h45. Et puis juste avant 10h, nous avons comme d'habitude rendez-vous avec Madame Vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, Manu a une question très précise.
Oui, alors c'est une question qui concerne sa compagne qui ne veut plus prendre l'avion pour le boulot. Peut-elle trouver d'autres modes de transport moins polluants?
Sa compagne Greta.
Non, c'est pas elle. Le prénom n'est pas précisé dans la question.
À tout à l'heure, Manu, votre réponse. Donc ça sera juste avant 10h, mais tout de suite, 30 ans de crise à l'hôpital public. Pourquoi diable en sommes-nous là?
14 novembre 2019.
21 lits ont été fermés dans mon hôpital depuis quelques jours.
Cédric Lucier.
Alors que la ministre nous a demandé de tout mettre en œuvre pour qu'aucun patient ne dorme sur un brancard la nuit aux urgences.
Directeur général du groupe hospitalier Nord-Essonne.
Nous risquons cet hiver d'avoir des situations qui se multiplient, non pas pour des raisons financières, mais parce que nous sommes face à des pénuries sans cesse croissantes, à la fois de personnel infirmier, de kiné, de manipulateurs radio et de médecins.
Sur la question des hôpitaux, on est sur des changements de pratiques.
Thomas Meynier.
Il faut quand même sortir des discours simplistes de « on ferme des lits, on ferme jamais de lits par plaisir ».
Médecin urgentiste et député La République En Marche.
Depuis 2 ans, on a quand même mis en place de nombreuses réformes pour réorganiser complètement notre système de santé. On n'a pas formé assez de médecins, c'est le problème du numerus clausus. Ça, on l'a réglé en le supprimant cet été, ça donnera ses effets dans 10 ans. Mais après, il ne s'agit pas de dire « on veut 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards ». Il faut savoir ce qu'on veut en faire.
On arrive clairement à un point de rupture.
Rémi Salomon.
Ce qui se passe dans les services hospitaliers.
Chef de service à l'hôpital Necker.
C'est que les conditions de travail se sont dégradées à un point tel que les soignants commencent à quitter et de plus en plus l'hôpital. Les Français ne sont pas forcément au courant que chaque année, au même moment, le Parlement, leurs élus, votent le budget de l'hôpital. Comment le budget est fixé? Il est fixé selon des règles dictées par la finance publique, mais en aucun cas en fonction des besoins.
Enfin, un électrochoc.
Christophe Prudhomme.
Concrètement, demain matin, je prends ma garde à 8h.
Porte-parole de l'association des médecins urgentistes.
Je ne peux pas sortir mon ambulance du SAMU dans la rue parce que les portes du garage sont aujourd'hui non fonctionnelles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas payé les fournisseurs. Voilà la situation de l'hôpital, c'est la grande misère. Là, l'électrochoc qu'on demande aujourd'hui, c'est comme le dit le président de la République, c'est du pognon.
Les conditions de travail sont en train de se déshumaniser.
Tiphaine Morvan.
Par du manque de matériel, de personnel.
Infirmière à l'hôpital Saint-Louis.
On peut constater que, par exemple, dans des services de médecine aiguë, on se retrouve avec un infirmier pour 15 malades.
Je regarde la colère.
Emmanuel Macron.
Je vois les indignations, la grande difficulté de fonctionner. Le plan qui a été mis en œuvre ne va pas assez vite. Il faut donc pouvoir compléter ce qui a été annoncé et qui permette d'accélérer la transformation engagée et de répondre très concrètement à l'urgence à laquelle nous faisons face.
Emmanuel Macron, qui a promis des décisions fortes, je le cite, la semaine prochaine, qui seront annoncées donc mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. Mais avant de regarder les solutions, comme d'habitude, on va prendre du recul pour avoir une photographie exacte, un peu macro. Emmanuel Le Chypre, faites-moi la photo des hôpitaux publics en France, s'il vous plaît.
Alors les hôpitaux publics, il y en a un peu plus de 1300, hein, si vous en croyez les chiffres de la DARES, dont 178 CHU, CHR, hein, qui sont
les
vraiment
gros.
Les gros, les vaisseaux amiraux de l'hôpital public. Ça fait 253 000 lits, ça représente les 2/3 à peu près de l'offre hospitalière en France, le reste se partageant entre ce qu'on appelle le privé lucratif, donc le privé-privé, et le privé à but non lucratif. Ça fait 128 000 lits au total, 128 000 personnes pardon au total qui travaillent dans les hôpitaux. Là-dedans, vous avez un peu moins de 100 000 personnes qui sont des salariés. Vous avez 2 100 libéraux et 28 000 internes. Les finances, elles vont très mal, effectivement. Et surtout, la situation s'est beaucoup dégradée depuis 2012, avec des économies qui représentent quasiment 9 milliards en 15 ans. La dette a triplé quasiment en 10 ans pour atteindre à peu près 30 milliards d'euros. La dégradation s'observe comment? Avec des déficits qui se creusent. Vous avez aujourd'hui 6 hôpitaux sur 10 qui sont en déficit. C'est 2 cliniques sur 10 seulement, par des investissements qui sont au plus bas depuis 20 ans et une vétusté des équipements qui explose. Tenez-vous bien, 80% des équipements des hôpitaux aujourd'hui sont vétustes. Le tout avec des personnels très mal payés. Prenez les infirmières, par exemple. Elles ne gagnent en France que 94% du salaire moyen, alors que dans les pays de l'OCDE en général, elles gagnent à peu près 115% du salaire moyen.
Christian, vous la complétez cette photo?
Oui, tout à fait. Effectivement, 40. Enfin, l'hôpital public, c'est vraiment le pilier de l'hospitalisation en France. Il n'y a que 45% des établissements qui sont publics, mais comme l'a dit Emmanuel, c'est 60% du nombre de lits, c'est-à-dire l'hospitalisation longue, et 55% du nombre de places, c'est-à-dire l'hospitalisation courte. Il n'y a pas vraiment de problème en ce qui concerne une trop grosse bureaucratie. C'est 10% le personnel administratif de l'ensemble. D'ailleurs, un petit peu.
10% ouais, seulement, 15, d'accord.
15% c'est les médecins, et dans ce qui reste, il y a évidemment beaucoup de soignants, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Et l'administratif, c'est que 10%, donc on peut pas dire que l'hôpital meurt parce qu'il dépense trop pour...
Les bureaucrates, pour, d'accord, les gens dans les bureaux.
Bureaucrates. Mmh. Par contre, effectivement, vu que ces 10-15 dernières années, on a une orientation budgétaire qui fait que on va donner moins d'argent que la progression des besoins, qui est naturelle, hein. On vieillit, on est de plus en plus malade en vieillissant, et bien le taux d'investissement a complètement nettement chuté. Il était de 11% en 2009, il est 5% aujourd'hui. Donc plus de division par deux. Emmanuel l'a dit, on a les chiffres en dollars parce que c'est l'OCDE qui fait la comparaison. Une infirmière en France, c'est payer à peu près 42 000 dollars de salaire brut par an. Au Royaume-Uni, c'est 51. En Allemagne, c'est 54. Vous montez jusqu'à 69 aux Pays-Bas. Du coup, des infirmières, on l'a entendu dans le ZAP, qui ne restent plus. Il y a des postes vacants. Du coup, il y en a encore de moins en moins. Du coup, les dégradations de travail, plus l'absentéisme, etc. Donc, dégradation des qualités et de la sécurité des soins, ce dont se plaignent évidemment les personnels. L'obligation de fermer des salles. On est passé en hospitalisation complète de 475 000 lits en 2002 à 396 000 en 2018. Alors évidemment, l'hospitalisation courte prend un peu plus de place par rapport à l'hospitalisation longue. Donc on a un peu plus de lits en cours, mais ça ne se substitue pas. Et enfin, une dernière chose, il faut dire que les urgences, c'est par là que ça a démarré, hein, au mois de mars, avril dernier. Les urgences, 81% des gens qui vont aux urgences vont à l'hôpital public. L'hôpital public, c'est vraiment, il est en première ligne dans les soins des Français.
Alors j'entends deux choses dans ce que vous dites. Il y a évidemment le problème financier et puis il y a un problème d'organisation. Il me semble déjà, puisque Christian parle des urgences financières, qu'on comprenne bien, les budgets de l'hôpital public ne sont pas forcément en baisse, mais en tout cas, ils ne suivent pas les besoins, c'est ça que vous nous dites ?
Alors, si, ils sont en baisse, c'est-à-dire que si vous regardez...
Je veux dire sur une période longue.
Si vous regardez sur la grosse quinzaine des années dernières, l'hôpital, concrètement, il dépense 9 milliards de moins. Donc là, et là, on raisonne pas sur, vous savez, comme on le fait souvent en finances publiques, par rapport à des trajectoires théoriques. C'est pas 9 milliards de moins par rapport à ce qui était prévu. C'est vraiment 9 milliards de moins. Et Christian l'a dit, la trajectoire qui est fixée tous les ans, c'est ce qu'on appelle l'ONDAM. C'est en gros la trajectoire budgétaire.
Non, il faut expliquer, parce que le médecin dans le zapping, il le dit bien. Il dit, il faut bien que les gens sachent qu'en réalité, les moyens de l'hôpital, c'est décidé par les députés.
Oui, exactement. Hein, parce qu'en fait, on vote un budget général, et on vote un budget social, ça c'est depuis Alain Juppé, et donc c'est effectivement les députés qui fixent les objectifs de dépenses, et Christian l'a dit, grosso modo les niveaux de dépenses, les objectifs, c'est à peu près 2, autour de 2% d'augmentation, alors que les besoins naturels, hein, liés à la démographie, au vieillissement, etc., c'est 4%. Il faudrait que ce soit le double. Alors attention, l'ONDAM, c'est...
Ça s'appelle l'ONDAM. Hein,
ça s'appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
Voilà, c'est indicatif, c'est-à-dire que c'est un objectif. On ne se met pas à arrêter de rembourser les gens dès qu'on a atteint l'objectif. Mais enfin, c'est une contrainte très forte qui pèse effectivement sur les hôpitaux.
Christian Chavagnin.
Oui, et de fait, cette contrainte très forte, elle fait que on est vraiment dans une politique d'austérité qui consiste à dire quoi ? En fait, la logique macroéconomique, c'est quoi ? C'est de dire, il y a trop de dépenses de santé en France. Et alors qu'on vient bien de le dire avec Emmanuel, pourquoi il y a de plus en plus de dépenses de santé ? C'est parce qu'il y a de plus en plus de demandes de soins, parce que les gens vieillissent, sont plus malades. Le gouvernement, mais depuis au moins 10 ans, 15 ans, a dit non, pour essayer de réduire la demande, on va réduire l'offre. Donc on va squeezer l'offre de santé, parce que s'il y a moins d'offres, les gens, ils auront moins de médecins, moins de médicaments, moins d'hôpitaux, et du coup, ils vont dépenser moins. Alors que c'est pas du tout ce à quoi on assiste, c'est que la demande est croissante, ce qui fait que aujourd'hui, vous avez dans le fameux ONDAM, normalement pour l'année prochaine, donc on a prévu 205 milliards, d'accord, de dépenses. 94 milliards, c'est pour la médecine libérale, et 84 milliards, c'est pour l'hôpital. Donc vous vous dites, moi, en pur macroéconomiste, je ne suis pas un spécialiste des questions de santé, vous avez un gros paquet qui est la médecine libérale et un plus petit paquet qui est l'hôpital. Si je veux réduire mes dépenses de santé, il faut que j'agisse sur le libéral. Eh ben non, ça fait 10 ans qu'on dit, depuis la loi Bachelot, on va agir sur l'hôpital, c'est lui qui va prendre tout le poids de l'austérité.
Alors, c'est ce qu'on entend souvent, Emmanuel. On entend que l'hôpital public, en fait, pour réduire ses dépenses de santé, c'est la variable d'ajustement, parce que c'est beaucoup plus facile de serrer le robinet, de fermer le robinet de l'hôpital, que des médecins de ville.
Oui, mais c'est vrai que, alors, le sujet, il est en grande partie financier, et il a été traité quasiment exclusivement comme ça.
Ouais.
On s'est dit, on va tailler dans les dépenses avec le tableur Excel à Bercy, effectivement.
Pourquoi? Donc, parce qu'on a une dette. On voit bien que ça.
Oui,
ah, c'est
mais,
ça le sujet. Quand
d'accord,
même.
Mais non. comme beaucoup d'autres sujets, il y a effectivement les sujets financiers, mais il faut bien voir aussi que sur les difficultés d'organisation, on a loupé toutes les réformes. Prenez par exemple les vraies réformes ratées à l'hôpital, les 35 heures. Ça aurait nécessité l'embauche de 45 000 personnes supplémentaires. 35 heures qui au départ ne devaient pas s'appliquer à l'hôpital, si j'en crois ce que dit Martin Hirsch, qui était à l'époque conseiller de Martine Aubry. Ça a été une désorganisation totale. La tarification à l'acte, hein, vous savez qui était cette idée, finalement d'essayer de rendre plus responsables les hôpitaux, et résultat, ça a créé une inflation millions d'actes. Et donc, résultat, ça a produit presque l'effet inverse. Et puis, toutes les réformes n'ont fait qu'augmenter la complexité administrative. Songez qu'un soignant, il a 10 échelons au-dessus de lui. Songez qu'un directeur d'hôpital, il reçoit 250 directives nouvelles sur son bureau chaque année. Ça fait une par jour ouvrable. C'est de tout ça qui est en train d'asphyxier l'hôpital avec des difficultés d'organisation qui, elles, n'ont pas été traitées. Par exemple, on voit qu'on manque de lits. Mais on sait qu'au niveau français, on a beaucoup plus de lits qu'ailleurs. Vous en avez 6,3 pour 1000 habitants. C'est beaucoup plus que dans tous les autres pays. C'est sensiblement plus que la moyenne des autres pays. Et pourtant, on nous dit qu'on manque de lits. Les gaspillages, c'est hallucinant. 30% d'actes inutiles, on nous dit. La Fédération des hôpitaux nous dit, si on s'attaquait à quelques pourcents seulement de ces 30% de gaspillage, on dégage 1 milliard d'euros par an. Un bloc opératoire, il est utilisé 22 heures, il devrait être utilisé 50 heures, etc., etc. Tout ça, on ne s'est pas attaqué à ces problématiques d'organisation.
Il y a beaucoup de choses dans tout ce qu'on vient de dire. Alors Christian, vous m'avez reprise quand j'ai dit c'est un problème. Si on veut réduire les dépenses de santé, c'est parce qu'on a un problème de dette. Vous...
Enfin, la dette des hôpitaux, c'est à peu près 50%. Ils ont un taux d'endettement de 50%. Alors, c'est vrai que ça a progressé au cours des dernières années parce qu'on l'a vu, le problème est budgétaire. Ils ont de moins en moins de ressources, ils ont de plus en plus de dépenses. Donc évidemment, on compense par un peu d'endettement. Mais c'est vrai que leur dette a progressé, mais 50% de taux d'endettement, honnêtement, c'est pas grand-chose. C'est pas un problème purement financier. C'est juste que le choix politique qui est fait face à une médecine de ville et une médecine de l'hôpital. Et tout le poids porte sur l'hôpital, alors que la médecine de ville, peut-être qu'il y aurait des choses à faire. Les médecins, ils ont la liberté d'installation. Et du coup, on a des déserts médicaux. La démographie des médecins est en berne. Il y a de moins en moins de médecins. Ils vieillissent et ils veulent travailler comme tout le monde. Donc, ils ont réduit plutôt leur temps de travail parce qu'ils veulent avoir une vie normale. Et en cela,
la logique qui a prévalu sur l'hôpital, elle a prévalu sur les médecins quand on a fait des numerus clausus qui étaient aberrants, qui ont limité.
Voilà, mais ça, il y a très très longtemps, on en paye aujourd'hui les conséquences. S'il y a du coup des dépassements d'honoraires, et c'est vrai qu'ils sont en baisse ces dernières années, mais Emmanuel parlait d'un milliard, il y a quand même 2,4 milliards de dépassements d'honoraires en 2018, donc il y a peut-être aussi des choses à faire là. Les incitations financières pour mettre les médecins un peu plus dans les déserts médicaux pour que les gens aient moins à l'hôpital, on a une note de la direction du Trésor du mois dernier qui nous dit ça fonctionne pas. Ouais. Le refus de réglementer plus en disant aux médecins, vous allez être obligés de... Non, rien du tout. Il y a même des médecins qui commencent à dire, vous savez, les médecins, ils sont secteur 1, c'est-à-dire qu'ils acceptent les tarifs de la Sécu. Secteur 2, c'est-à-dire ils font soit leurs tarifs, soit les tarifs de la Sécu s'ils sont conventionnés. Et ce qu'on appelle de temps en temps le secteur 3, c'est-à-dire tarifs libres. On nous dit, donc le secteur 1, c'est le plus intéressant pour les dépenses publiques, enfin, pardon, pour les malades.
Pour les malades, parce qu'ils sont remboursés
par la Sécu. On entend certains médecins dire qu'il faut faire sauter le secteur 1 parce que comme il n'y a pas assez de médecins, il faut qu'on soit complètement libre sur nos tarifs, ce qui ferait augmenter encore plus les dépenses de santé et ferait peser encore plus sur l'hôpital le poids de la réduction. Donc voilà, vous voyez bien que c'est l'articulation pour s'en sortir. Il va falloir qu'on trouve des solutions qui permettent de mieux mettre ensemble la médecine de ville et l'hôpital.
On va avoir du courrier de médecins. Vous êtes d'accord, Emmanuel Le Chypre, avec cette idée?
J'attaque pas les médecins, c'est juste une constatation démographique.
Je pense Emmanuel Le Chypre...
D'ailleurs, il change de comportement.
On n'est pas sur les médecins. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Christian. Moi, je pense qu'il y a une ambition dans ce pays cachée de la part du ministère de la Santé, c'est de se débarrasser de la médecine libérale. D'aller vers une médecine totalement étatisée.
Mais je savais bien que vous seriez pas d'accord.
C'est plutôt l'inverse, là, ce qui se passe. On est en train de détruire l'hôpital public au profit de la médecine de ville.
Non, pas au profit de la médecine de ville. La médecine de ville, elle est sinistrée aussi. Je veux dire, et un des vrais sujets, c'est effectivement, pour le coup, là où je suis d'accord, c'est une des clés de la solution, c'est cette relation entre la médecine de ville et l'hôpital. Quand vous voyez, par exemple, on parle des urgences, mais quand vous voyez qu'aux urgences, vous avez 3 millions de personnes qui assurent 70% des passages, qui sont les personnes âgées dont personne ne veut, etc. Parce que c'est ça aussi, on a fait de l'hôpital le réceptacle de tous les maux de la société. Donc, tous les changements, c'est quoi? Il y a des défis considérables. Le défi de la médecine ambulatoire, le défi qu'on est...
Il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Le défi de comprendre qu'on est passé dans un monde où on n'est plus dans des maladies infectieuses, où on est dans des maladies chroniques, ça aussi, ça demande une adaptation de l'hôpital. Et puis, il y a toute un pan qui est sur le management, la gestion, la décentralisation absolument indispensable. Ce que veulent les directeurs d'hôpitaux aujourd'hui, plus que des moyens, c'est la possibilité de gérer leurs hôpitaux, d'embaucher les gens comme ils veulent, etc. Voilà, il y a des choses à faire.
Non, mais ça, il ne faut pas que des sous, alors du coup, on va faire autre chose. Non, il faut aussi des sous.
Il faut des
marges de manœuvre budgétaire, il faut de l'investissement dans les hôpitaux publics, il faut augmenter les salaires des soignants. Le président de la République s'est engagé, on va revoir ce que va annoncer le Premier ministre mercredi prochain. Mais ce sera une solution, il le faut. mais ce sera une solution de court terme. Mmh. Il faut des solutions à plus ou moins long terme. Est-ce que le fameux virage ambulatoire,
ça veut dire
on reste moins de 12 heures à l'hôpital et on retourne chez soi. On a eu une note du ministère de la Santé au mois d'août qui a fait le bilan. Que nous dit le ministère de la Santé sur le total des séjours qu'on pourrait mettre en ambulatoire? Vous restez très peu à l'hôpital, vous retournez chez vous. 58% en 98 étaient passés en ambulatoire, plus de 70% en 2016. On est pratiquement aux trois quarts à l'ambulatoire. Ça veut dire, est-ce qu'on peut progresser encore quand vous faites une opération très lourde, vous n'allez pas retourner chez vous le lendemain matin? Donc, le virage ambulatoire, il a déjà été pris. Il a déjà été pris. Cette note du ministère de la Santé nous dit, on peut gagner 1 ou 2%, mais marginalement, on n'ira pas plus loin. Il y a des écarts dans les départements, et des départements qui pourront aller plus loin, parce que même compte tenu du fait de l'âge des gens, de type de maladie, on pourra aller plus loin. Mais voilà, il y a des petits ajustements à faire. Le virage ambulatoire, il a déjà été fait. Donc, il y a l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait dans l'hôpital même? Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, ils ont mis des années et des années à discuter avec les infirmières. 25% du travail des médecins est passé chez les infirmières. Mais pas comme ça, en un claquement de doigts, en disant demain matin, vous allez
ça
vous
aussi,
occuper.
L'œuvre, hein. On l'entend c'est au ministère de la Santé.
Mais dans les autres pays, ça a été
sur
fait.
Sur les infirmières super spécialisées,
dans les autres, dans les autres pays, on a formé les infirmières, on les a revalorisées sur le plan des salaires, etc. Aujourd'hui, vous avez ces infirmières un peu spécialisées, mais elles gagnent à peine plus qu'une infirmière normale. Non, ce qu'il faut, c'est une réflexion sur la coordination. Hôpital, médecine de ville. Mmh. Mais il y a une bonne nouvelle. Les médecins sont d'accord. Pour ça, j'attaque pas du tout les médecins. Et l'hôpital aussi est d'accord. Il y a une nouvelle coordination qui se met en place. Il y a les fameuses maisons
de santé qu'on voit apparaître, en effet.
Pluriprofessionnelles, ouais. Où vous avez des gens qui sont ensemble. Et c'est pas seulement des médecins ensemble. C'est des médecins avec des kinés. C'est des médecins avec des infirmiers. Des médecins peut-être aussi au Franc-Moisin, par exemple, à Saint-Denis. Des médecins avec des partenaires, avec des travailleurs sociaux. Parce que vous avez un type de population que, vous avez des femmes qui parlent les 5 ou 6 langues qui sont parlées dans le quartier des Francs-Moisins. Du coup, la prescription est mieux comprise. Le médecin comprend mieux les malades et le suivi est bien meilleur.
Donc l'argent, les solutions, Christian,
y a
de l'argent tout
mais
de suite.
Surtout du local, l'organisation locale entre la médecine de ville et l'hôpital.
Donc, du long terme.
Ça,
c'est du long terme.
Allez-y, de la décentralisation, des marges de manœuvre
c'est
au niveau local.
Il faut le développer, il faut le mettre
encore,
en œuvre.
Pas encore assez. Et il y a d'énormes marges en matière de progrès dans la gestion. Regardez, il y a des cliniques qui sont 10 fois plus grosses que les gros CHU et qui accueillent autant de personnes aux urgences et ça se passe très bien.
Non, ça accueille beaucoup moins les cliniques privées, c'est beaucoup moins de personnes, j'ai toutes les stats et en plus le coût administratif est plus élevé.
Aller à l'hôpital d'Antony, ils accueillent
Antony, c'est en banlieue parisienne,
autant de gens aux urgences qu'à Cochin, avec beaucoup moins de moyens.
Le coût administratif est beaucoup plus élevé, ça coûte plus cher.
C'est un problème d'organisation. Les actes n'ont pas à être 25% plus chers quand ils sont comparables dans les hôpitaux que dans les cliniques. Mais c'est pas en pondant, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 3 conseillers qui vont vous pondre une réforme en quelques heures.
Non, c'est pas vrai. Ça fait quelques années.
Et ça ne marchera pas. Et Christian, il veut qu'on dépense plus. Et ben la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité technique et administrative de dépenser tout cet argent dans les hôpitaux.
D'accord, pas plus d'argent pour l'hôpital.
Mais si,
c'est contradictoire.
Mais aujourd'hui, l'organisation actuelle fait qu'ils ne peuvent pas le dépenser.
Soulager les hôpitaux publics, plus facile à dire qu'à faire. Merci les débatteurs. Rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine. À venir dans la prochaine demi-heure, notre invité, c'est la patronne du laboratoire Janssen en France, Emmanuelle Quillès. On va parler là des médicaments. On va rentrer dans le sujet avec la question qui fâche. Dans les hôpitaux, dans les pharmacies, est-ce qu'on peut enfin en finir avec les pénuries qui ont explosé ces dernières années? Et là encore, ça n'est pas que de l'écho, il s'agit bien de réparer les vivants.
Bonjour. Ouais, je suis pas sorti. Bonjour. Si, maman t'avait prévenu qu'il y avait quelqu'un qui allait venir qui s'appelle Anaël.
Vous vous appelez comment?
Je m'appelle Dominique. Mon époux s'appelle Rachid.
Et votre
notre
fils?
Grand-fils, Jesse. Un grand jeune homme de 32 ans.
Voilà, qui est en fauteuil, qu'est-ce qu'il a comme...
Jesse est atteint d'une maladie très rare. Il existe à peine 100 cas dans le monde. Il s'agit d'une mutation génétique sur le gène KCNT1 qui entraîne une dégradation progressive de tous ses acquis. Et il a commencé à faire des crises d'épilepsie de plus en plus souvent. Du coup, il a perdu la marche, la propreté, il mange uniquement mixé, il est gastrostomisé.
Et il y a un médicament, parmi les médicaments qu'il prend, qui était introuvable pendant un certain temps?
Il y a un médicament qui s'appelle le Diidan, qui a été en rupture de stock pendant une longue période, à 2 reprises, en 2014 et en 2015 aussi, je crois, un an après, il a été de nouveau en rupture.
Que vous disaient les médecins ou en pharmacie, quand vous vous rendiez en pharmacie, vous disiez quoi ?
Aucune date de retour. Certains médecins disaient même qu'on ne le retrouverait jamais, qu'il ne serait pas refait. J'ai interpellé à plusieurs reprises la NSM, et la NSM ne pouvait rien faire de plus. J'ai été en contact également avec le labo français, mais pas fabricant justement, qui nous a expliqué que le problème venait que le labo Primus, qui fabriquait le médicament qui était à Blois, a été fermé parce qu'il n'avait pas respecté certaines choses sur un autre produit qui n'a rien à voir avec l'épilepsie. C'était un médicament pour les cancers pédiatriques.
Quel effet ça a eu le fait qu'il n'ait pas eu son médicament ?
Eh ben, il convulsait en permanence et les médecins, les deux fois, nous ont convoqués en nous disant « votre fils, voilà, c'est la fin et s'il n'y a rien qui se passe, eh bien, on lui donne de la morphine et c'était quoi l'autre ? De l'hypnovel pour qu'il puisse partir sans souffrir. »
Évidemment, les plus concernés sont ceux pour qui le médicament est une question de vie ou de mort. Mais le sujet touche tous les Français. 1 sur 4 s'est déjà vu refuser un produit pour cause de rupture de stock, un antiépileptique ou un corticoïde, un antibiotique, un vaccin ou encore son traitement contre Parkinson. C'est de plus en plus fréquent, c'est alarmant et là-dessus tout le monde est d'accord. Le ministère de la Santé a pris le sujet en main avec de nouvelles obligations à venir pour les entreprises en matière de stock. Mais les racines du problème vont au-delà. Notre reporter Anaël Verzo a contacté un patient, Michel, qui lui aussi a voulu comprendre pourquoi il était privé tout à coup de son anticancéreux.
Oui.
Alors... Oui, Michel Belin ?
Oui, lui-même, oui.
Vous êtes en Bretagne, je crois. Hein.
Je suis à Morlaix.
Vous êtes malade, vous avez, je crois, un cancer de la vessie ?
Oui, tout à fait, déclaré depuis 2017.
Pour soigner ce cancer, vous avez un médicament qui vous a été prescrit ?
Tout à fait, la Lamectine 40. Donc j'ai eu des injections tous les mois pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai eu un appel de téléphone en me disant « Monsieur Belin, demain votre rendez-vous n'aura pas lieu, nous n'avons pas de Lamectine. » Voilà, la Lamectine 40 était en rupture de stock au niveau national, donc il n'y avait plus de produits. J'étais assommé, en disant, mais qu'est-ce que je fais? D'abord, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est pas possible, pas notre pays au 21e siècle.
Pendant le temps, vous n'aviez pas d'améthycine 40. Pendant combien de mois, d'ailleurs?
4 mois.
Qu'est-ce que vous aviez comme médicament? Est-ce que vous aviez un autre médicament qui était un équivalent de l'améthycine 40?
Non, rien. Je n'ai eu aucun soin, aucun traitement. Rien. Donc, psychiquement, c'est difficile à vivre parce que, bon, déjà la maladie par elle-même, c'est pas simple. Mais se dire, je suis lissé pour compte et cette cochonnerie est en train de galoper. Et entre parenthèses, ce qui est quand même aberrant, c'est que les chercheurs, les scientifiques, enfin l'industrie, on a tout sur place dans notre pays pour faire fonctionner tout ça. Et Sanofi, ne gagnant pas assez d'argent, puisque chaque injection ne coûte que 95 euros, a laissé ses droits à un laboratoire chinois et à un laboratoire japonais. Donc on dépend non seulement de l'étranger, mais pas d'à côté.
En 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, a enregistré 868 signalements de traitement en rupture de stock ou en tension d'approvisionnement, soit 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Comment les laboratoires pharmaceutiques expliquent-ils ces ruptures ? Thomas Borel est médecin et directeur scientifique du LEM, le syndicat des entreprises du médicament. Comment est-ce que vous, au LEM, vous expliquez cette situation qui semble assez incroyable pour un pays comme la France? On ne s'imagine pas qu'on puisse être en rupture de médicaments.
Le besoin de santé, globalement, dans le monde, a augmenté. Vous avez globalement un quart des causes de rupture qui est associé à ce différentiel entre la demande et l'offre, et la capacité d'offre.
Donc il faut que les industriels produisent plus?
Il faut que les industriels, pour certains de ces produits, soient en capacité de produire plus, ce qui n'est pas simple, parce que construire une nouvelle usine de médicaments, mettre en place une nouvelle chaîne de production de médicaments, c'est entre 5 et 10 ans.
Donc le problème de la production, ça c'est un quart du problème, et le reste?
Alors là, je vous parlais de la production du médicament fini. Vous avez un autre problème qui est la production du principe actif. Ce principe actif, aujourd'hui, malheureusement, est de plus en plus produit dans d'autres zones géographiques que l'Europe, puisqu'effectivement, 80% est situé dans la zone Asie. Concentré sur quelques producteurs qui, pour des raisons soit de difficultés sur la production en termes de volume, soit sur des problèmes de qualité de la production, peuvent se retrouver en incapacité de fournir le principe actif à l'entreprise du médicament. troisième cause de ces ruptures, les prix des produits de certains de ces médicaments, qui sont des médicaments anciens, qui sont des médicaments sur lesquels le prix de vente est parfois au niveau du coût de revient industriel, ne permettant pas nécessairement...
Ça n'importe pas assez pour le laboratoire qui le produit.
Pour pouvoir continuer à faire des investissements qui sont demandés.
Donc il faudrait, pour ces laboratoires, augmenter le prix des médicaments. Enfin, c'est ce qu'ils demandent, eux, en tout cas.
Il est important que pour certains médicaments, encore une fois, de reconsidérer les prix de vente, notamment en France, où les prix de vente sont souvent plus bas que dans d'autres pays de référence en Europe.
Un point de vue que ne partage pas du tout la plus grande association de défense des utilisateurs, France Asso Santé. Yann Mazins y est chargé de mission.
C'est France Inter.
Concernant les causes des pénuries, il y a un discours dominant qui laisse entendre que les causes sont complexes. En fait, c'est beaucoup plus simple. Hein. Les causes des pénuries, elles sont principalement dues à une question de rationalisation des coûts et une augmentation des profits. Et nous, on voit, on a des cas étayés où c'est des choix stratégiques des industriels qui ont conduit à un défaut d'approvisionnement et à la mise en danger de personnes sur le territoire.
Alors, à quoi est-ce que vous faites allusion, là?
Oh ben, je fais allusion à des cas très précis. Hein. Actuellement, on est confronté à une pénurie d'améthycine dans le cancer de la vessie. Et la pénurie fait suite à un choix stratégique d'un laboratoire, en l'occurrence Sanofi, d'arrêter sa commercialisation pour s'orienter vers d'autres choix stratégiques de secteurs plus rentables, comme en oncologie, puisqu'on parle de médicaments à plus de 300 000 euros la cure. Et dans le cas de la syphilis, on a eu pendant plusieurs années incapacité de traiter des personnes avec des conséquences en termes de santé publique, puisque les personnes non traitées sont potentiellement plus contaminantes.
L'arrêt de la commercialisation de ce médicament contre la syphilis, il a été décidé par qui, pourquoi, comment?
Enfin, ça,
comment
est-ce que c'est le laboratoire a le libre choix encore de décider les médicaments qu'ils vont produire. Dans le cadre de l'hépatite B, nous avons été confrontés à une pénurie qui a duré pendant près de 3 ans, qui a été due à un défaut de fabrication dans une chaîne de fabrication d'un laboratoire situé en Belgique. On voit qu'on a une seule chaîne de production qui alimentait toute l'Europe. Ce n'est pas normal. On doit avoir des stocks, on doit avoir des sites alternatifs de production pour pouvoir faire face à tous les incidents, ou du moins le plus d'incidents possible. Les industriels se sont engagés depuis plusieurs années à mettre en place des sites alternatifs de production. On n'a rien vu venir et on voit qu'on a une problématique qui augmente.
Face à l'aggravation de la situation, le ministère de la Santé est en train de prendre des mesures en inscrivant la pénurie de médicaments dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Ces mesures sont-elles pertinentes? Nathalie Coutinet est économiste de la santé, auteure du livre « L'économie du médicament ».
Dans le plan Buzyn-Philippe, dans le plan du gouvernement, il y a la volonté de sanctionner à hauteur maximum de 30% du chiffre d'affaires journalier, ce qui est quand même très important, les firmes qui n'alerteraient pas sur les risques de pénurie et ne constitueraient pas des stocks pour lutter contre ces pénuries. Et il y a aussi la volonté du gouvernement de mieux coordonner au niveau européen les achats de médicaments de manière à constituer peut-être des réserves européennes de médicaments.
Mais ça, ce sont des bonnes mesures, selon vous ?
Oui, c'est ce qui est bien, c'est que ce soit pas aux États de le faire, parce que ça, sinon, ça serait encore une fois sur le coût des finances publiques. Alors après, les stocks, est-ce que les firmes vont effectivement les faire? Est-ce qu'elles vont les faire en quantité suffisante? Mais en tout cas, il faut reconnaître qu'on a déjà un début, peut-être pas de solutions qui vont résoudre complètement le problème, mais qui pourraient porter des améliorations pour les patients.
Est-ce qu'une des solutions ne pourrait pas être de relocaliser ces entreprises qui fabriquent les principes actifs?
Alors ça peut être une solution, d'ailleurs c'est relativement récent que ces principes actifs soient fabriqués en Inde et en Chine. C'est uniquement une question de prix hein, aujourd'hui. Alors ce que les entreprises du médicament demandent pour relocaliser, c'est des aides fiscales. Alors évidemment, ça peut marcher, hein, mais il faut rappeler que le secteur pharmaceutique, c'est quand même un des secteurs les plus rentables du monde. En 20 ans, c'est 1 000 milliards de profits qui ont été réalisés par les firmes pharmaceutiques. Alors pour donner un ordre de grandeur, le PIB français, c'est 2 200 milliards d'euros. Donc c'est quasiment la moitié du PIB français de profits des firmes pharmaceutiques. Donc c'est pas des firmes qui ont besoin d'être aidées, si vous voulez. Et le problème principal auquel les États, tous d'ailleurs, sont confrontés, c'est comment faire en sorte que les firmes pharmaceutiques tiennent leurs engagements et approvisionnent correctement les États pour des médicaments qui sont utiles et pour lesquels il n'y a pas de médicaments de remplacement. Il n'existe pas une autre molécule qui soit aussi efficace pour tous les patients.
Les pénuries de médicaments. Qui est responsable? C'était le reportage d'Anna Elverzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et notre invité pour poursuivre la discussion est la PDG France du laboratoire Janssen. Bonjour Emmanuel Quiles.
Bonjour.
Alors Janssen, en France, c'est un centre de recherche et un centre de production, une usine à Val-de-Reuil en Normandie, 1200 salariés. Je crois que la moitié de votre chiffre d'affaires, ce sont des traitements anti-cancer.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas si vous avez été concerné par ce problème de pénurie, mais j'aimerais avoir votre regard. En quoi ces pénuries qui se multiplient depuis une dizaine d'années sont-elles la responsabilité des laboratoires ?
Tout d'abord, c'est une situation extrêmement préoccupante et j'entends très bien à travers les reportages des différents patients l'inquiétude qu'ils peuvent avoir. Moi-même, je suis patiente, on est tous patients et on a été confrontés probablement à ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Il mobilise beaucoup de personnes dans les entreprises à différents niveaux. Moi, j'ai la chance de diriger une entreprise pour laquelle on ne fait face à aucune rupture de stock actuellement. On espère que ça n'arrivera pas. C'est des moyens mobilisés qui sont énormes. Dans une entreprise comme la mienne, où on produit des médicaments multiples, les chaînes de production à travers le monde sont extrêmement complexes. Donc, il faut assurer un système qui permette d'être vigilant et d'anticiper ces risques de rupture. Donc, dès qu'on voit une tension dans la chaîne, en fait, il y a tout un système qui se met en marche, qui permet d'informer et de se préparer pour soit réallouer des stocks, soit les gérer différemment. Et on a un système d'information aussi immédiat avec les autorités de santé et avec les professionnels de santé.
Donc j'entends que chez vous, ça aurait plutôt marché ces dernières années, oui, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est pas une histoire de chance, je pense que ça se travaille. Il y a
Il y a des laboratoires plus négligents que d'autres apparemment.
Je sais pas s'ils ont été négligents, je pense que chaque situation est différente. On a des portefeuilles de produits qui sont très différents. Les vaccins, c'est pas du tout la même situation que des problèmes qu'on voit sur les corticoïdes. Il y a un besoin d'anticipation qui est pas forcément évident. Vous le savez, quand un pays comme la Chine va décider d'une campagne de vaccination, tout à coup, ça va tirer des volumes dans une certaine région du monde. Et il faut l'avoir anticipé et on n'est pas forcément informé des pratiques ou des intentions, des stratégies des différents pays.
Alors sur la chaîne de production, justement, on entend qu'un des problèmes, c'est le fait que les principes actifs, depuis une dizaine d'années, c'est assez récent, ne sont plus fabriqués à côté de chez nous, en Europe, mais en Inde et en Chine. Est-ce qu'on peut imaginer rapatrier, parce que le principe actif, finalement, c'est pas grand-chose dans le prix d'un médicament ?
Le principe actif, effectivement, c'est un des sujets clés, et probablement c'est un sujet mondial et européen à discuter. Comment est-ce que la France, ou l'Europe peut-être, un sujet à élargir, ait envie de rapatrier ses productions ? Un problème, probablement, auquel font face les industriels, c'est le sujet des normes et des qualités environnementales qui sont extrêmement fortes en Europe, et qui fait une des raisons pour lesquelles on va aller produire ailleurs parce que c'est plus simple, moins compliqué. Et ensuite.
Et que le coût du travail est plus bas ? Ça compte ?
Probablement, ça compte.
Donc, les rapatriés, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour l'instant, c'est plutôt pas la mode, pas la tendance.
Probablement, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une incitation pour les industriels du médicament à rapatrier. Mais encore une fois, ils sont généralement pas les fabricants du principe actif. Le principe actif, il est fabriqué par des fabricants.
Alors, ce qu'on entend dans le reportage aussi, c'est ce représentant du LEM qui dit que finalement, les ruptures, les pénuries ont un lien avec le fait qu'en France, l'industrie pharmaceutique est très régulée, que certains prix sont très bas et que, vous allez me dire si j'ai bien compris, il y a des labos qui préfèrent servir d'autres pays avant les nôtres.
Alors ça, c'est des cas extrêmement rares et je pense qu'il faut absolument pas faire un focus là-dessus. On l'a dit, 50% des pénuries sont liées à la demande mondiale et 25%, 23%, c'est les problèmes de qualité dans la chaîne de production. Donc, la petite partie dont on parle qui est en lien avec les prix, elle existe. Elle existe pour peut-être probablement des sociétés qui produisent essentiellement en France et qui aujourd'hui, quand elles ont la possibilité d'exporter le médicament, et un certain nombre de distributeurs peuvent le faire, exporter à l'étranger plutôt que de distribuer en France.
Parce qu'on l'ignore, ouais. Hein, c'est très régulé. C'est toujours, finalement, votre industrie, on lui dit, cette année, le ministère de la Santé vous dit, vous allez faire une croissance de temps, le prix, ça sera tant.
Oui, c'est toujours un bras de fer, ça a été finalement évoqué tout à l'heure, le PLFSS dont on parlait, ce qui est voté.
Le budget de la Sécu.
Le budget de la Sécu qui est voté à l'Assemblée. Il a aussi un impact sur le médicament, puisqu'il définit également la croissance que va pouvoir faire le médicament. Et je me permets de rappeler que sur les 10 dernières années, il y a une croissance zéro au global de l'industrie du médicament. Donc on en parle beaucoup de cette histoire de prix. pandémie, mais il faut de temps en temps revenir à des faits et pas partir dans des idées qui sont des a priori sur l'industrie pharmaceutique.
Qui est très rentable quand même, on l'entend aussi.
Elle est extrêmement rentable.
C'est 20% mais en France, de marge, c'est quand même quelque chose d'important.
En France, elle est extrêmement régulée et peut-être qu'elle est rentable, mais elle nécessite aussi des investissements extrêmement forts. Donc aujourd'hui, la part du médicament dans les dépenses de santé, c'est 12%. Il y a quelques années, c'était 15%. La part du médicament dans le PIB, il est entre 1,3 et 1,5% depuis des années. Donc c'est pas le médicament qui pompe sur les dépenses d'assurance maladie. Je pense qu'il existe un système aujourd'hui qui est régulé, qui est beaucoup trop fortement régulé d'ailleurs.
Parce que c'est l'avis des industriels du médicament.
Est-ce que vous connaissez des entreprises, des industries qui font autant d'innovations que nous et qui sont régulées à ce point-là et qui ont une croissance égale à zéro? Ça n'existe pas. Donc il y a un système quand même qui est à réfléchir. Je l'entendais tout à l'heure, de la même façon que pour l'hôpital. Aujourd'hui, les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche depuis des années, s'attaquent et font faire des efforts à ce qui est le plus simple, et ça a été dit tout à l'heure, c'est l'hôpital et c'est le médicament. Mais ça n'est pas la solution, il y a des problèmes organisationnels. La santé, c'est un domaine très compliqué, passionnant, parce qu'il est lié aux vies, à nos vies de tous les jours. Mais on doit l'attaquer à sa base, et il y a des sujets d'organisation notamment.
Alors, on va parler de l'accès, on va continuer sur l'accès aux médicaments. Quand on parle du médicament... Par exemple, en ce moment, les prix des anticancéreux s'envolent. Est-ce que les Français ont accès et vont avoir accès aux médicaments du futur ?
Aujourd'hui, le système de santé français est fait de telle sorte que la plupart des patients peuvent avoir accès aux médicaments. Et c'est ce dont on se félicite. Probablement, je pense que c'est une chose qui n'a jamais été remise en cause. Et je pense que c'est fantastique pour nous en tant que patients, en tant que citoyens.
Oui, parce que les prix sont bas aussi, parce que c'est régulé.
Peut-être, mais vous pouvez penser à un tas d'autres systèmes qui fonctionnent aussi bien et qui permettent de mettre en avant l'innovation. Le sujet qui nous tient à cœur pour la plupart des entreprises qui font de l'innovation aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que les patients puissent avoir accès à ces médicaments rapidement et qu'on n'attende pas trop longtemps. Je rappelle qu'en France, c'est 530 jours en moyenne pour avoir un médicament qui soit disponible sur le marché alors qu'il a déjà son autorisation de mise sur le marché.
Donc ce que vous demandez, c'est que ça aille plus vite.
Oui, ce qu'on demande, c'est que ça aille beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, quand on compare à ce qui se passe dans d'autres pays européens, on est 20e en termes de vitesse d'accès. C'est pas acceptable pour un pays qui se veut moderne, ça a été évoqué tout à l'heure.
Quel est le problème?
Probablement, on a un système qui est assez ancien en termes d'évaluation des médicaments, qui est assez long. Donc on a plusieurs process qui se mettent en route à partir du moment où on a une autorisation de mise sur le marché européenne. Ou en France, on fait une évaluation scientifique, et puis après il y a une réflexion économique, et puis après il y a une négociation encore avec une autre partie, un organisme de pouvoir public. Et donc, c'est extrêmement long, tous ces process. Oui, sur le prix. Donc, ce sont une série de process qui sont extrêmement longs et qui, probablement, n'utilisent pas aujourd'hui des critères les plus modernes pour faire une évaluation.
Emmanuel Quilez, on parle des médicaments du futur, vous venez d'être nommée présidente du programme Intelligence Artificielle et Santé pour la filière. Quelles sont les promesses? Intelligence Artificielle et Santé, ça veut dire quoi?
Ah, c'est fantastique, je suis extrêmement ravie de pouvoir diriger cette gouvernance parce que c'est un projet qui est très très large, qui mêle public et privé. L'idée c'est de regarder l'ensemble des projets qui vont pouvoir démarrer en France. On a cette chance en France d'avoir des bases de données fantastiques. Malheureusement, elles sont dispersées dans différentes organisations. Il faut arriver à les mettre ensemble et c'est ça notre grand projet. On a notamment
cette
envie de démarrer un projet cancer et intelligence artificielle. Alors, plusieurs aspects, y en a trois très rapidement. Accélérer la recherche, comment est-ce qu'on peut partager des informations pour faire en sorte qu'on arrête chacun dans son silo de chercher des molécules alors qu'à côté on est en train de faire à peu près la même chose. Donc c'est partager des infos. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on va faire pour diagnostiquer mieux. Vous le savez aujourd'hui, un grain de beauté, est-ce que c'est un mélanome, c'est-à-dire un cancer, ou est-ce que c'est bénin? On peut aujourd'hui avec l'intelligence artificielle détecter mieux que le font des médecins. Et puis le troisième sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner au mieux le patient et faire en sorte qu'il ait la meilleure stratégie thérapeutique.
Voilà, un éclairage sur les médicaments du futur, intelligence artificielle et santé. Emmanuel Quilez, la présidente de France du laboratoire Janssen, merci d'avoir été sur France Inter. Merci. Sandrine Foulon, ça n'est pas Emmanuel Lechypre, mais Manu vous a écrit, sa compagne doit voyager en avion pour le travail. Peut-elle refuser alors qu'il existe des alternatives comme le train?
Alors déjà, sur le principe, Manu, votre compagne ne peut pas refuser un déplacement professionnel, surtout si ça fait partie de son job. Même pour un voyage occasionnel, une réunion, une formation, elle ne peut pas dire non. Il faudrait que la demande de l'employeur soit disproportionnée, qu'on lui demande d'aller dans une zone dangereuse, que des obligations familiales ou que son état de santé ne lui permette pas de se déplacer. Ensuite, peut-on choisir son mode de transport, surtout pour des raisons écologiques? A priori, non. Le Flixcam, la honte de prendre l'avion, est un phénomène récent. La jurisprudence n'a jamais eu à se prononcer sur ce type de cas. Refuser de monter dans un Airbus ou un Boeing parce qu'on a une phobie, ça peut s'entendre et se défendre, surtout avec un bon certificat médical. L'économiste Nicolas Bouzou et un expert en sécurité aérienne, Xavier Tittleman, avaient estimé que 10 millions de voyages d'affaires étaient annulés chaque année dans le monde à cause de la trouille, les entreprises perdant dans l'affaire des milliards d'euros. Mais on n'en est plus là pour votre compagne, Manu. C'est plutôt la peur de détruire la planète avec l'avion. Et elle a bien raison. Un quart des vols au départ de la France ou à l'arrivée sont des déplacements professionnels.
Bon, d'accord, Sandrine. Une fois qu'on a dit ça, que peut faire cette auditrice?
Eh bien, convaincre son employeur. Le réseau Action Climat estime que 20% des émissions de CO2 de l'aérien concernent des voyages de moins de 1500 km. La bonne nouvelle, c'est qu'en 5 ans, les voyages d'affaires ont baissé de 30% sur les vols intérieurs en Europe, pour des raisons d'économie, grâce à la visioconférence ou simplement parce que certaines lignes de train deviennent très concurrentielles. C'est vrai pour un Paris-Bruxelles ou un Paris-Bordeaux. Des entreprises commencent à remplacer l'avion par le train pour des trajets de moins de 3 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que le trafic de passagers, tout compris, devrait doubler dans le monde d'ici à 2037 pour dépasser les 8 milliards de voyageurs. Jusqu'à présent, dans les entreprises, les plans de mobilité pour trouver des modes de transport moins polluants ont été un fiasco quasi total. Il faut dire qu'il n'y a aucune contrainte. Demain, les nouvelles obligations de dialoguer sur le sujet ne devraient pas l'être davantage. Si ce n'est, Manu, que la pression des salariés devrait peser de plus en plus fortement. La honte de prendre l'avion pour le boulot, on va laisser aux Suédois le soin de trouver un nouveau mot en Flixcam et en Arbeidsdag.
Ah, mais je ne savais pas que vous parliez suédois. Formidable. Merci Sandrine Foulon.